Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile de ce jour nous offre le récit non pas d'un miracle, mais de 10, opérés simultanément par notre Seigneur. Mais ici, notre Seigneur n'agit pas comme à son habitude. Il aurait pu guérir d'une parole, d'un contact de ses mains. Non. Ici, il se contente de renvoyer les lépreux vers les prêtres de l'ancienne loi. Bien sûr, les lépreux ont tout de suite compris que notre Seigneur leur promettait leur guérison. Car sous l'ancienne loi, pour un lépreux, le fait de se présenter à un prêtre n'avait d'autre sens que de faire constater la disparition de la maladie. Sans cela, les lépreux devaient se tenir à distance de la population. Et donc, les envoyer se présenter aux prêtres, c'était leur promettre leur guérison. D'ailleurs, les lépreux ont été guéris alors qu'ils étaient en route. Pourquoi cette attitude étonnante de notre Seigneur qui déroge à toutes ses habitudes? Pour tous les commentateurs de la Sainte Écriture, le péché est le symbole, la lèpre est le symbole du péché. Et les lépreux sont eux le symbole des âmes affectées par le mal du péché. Notre Seigneur a voulu par là montrer à l'avance que dans la nouvelle économie du salut, dans la nouvelle loi, la nécessité qu'il y aurait pour les pécheurs de recourir aux prêtres pour obtenir leur guérison. Les prêtres de la nouvelle loi ont maintenant un pouvoir bien supérieur à ceux de l'ancienne loi. D'ailleurs, les prêtres de la loi mosaïque ne sont qu'une pâle figure du sacerdoce catholique. Ces prêtres, en effet, ne pouvaient que constater la disparition d'un mal physique, d'une maladie du corps. Le prêtre du Nouveau Testament, lui, ne fait plus que constater. Il peut guérir un mal moral, un mal de l'âme, le péché. Et c'est ainsi que saint Jean Chrysostome affirme « Le sacerdoce de la nouvelle loi n'a pas pour but de constater la lèpre, mais de la purger et de la détruire. » Ce qui est intéressant ici est de noter qu'une chose n'a pas été dite. Elle est sous-entendue. En effet, lorsqu'un lépreux, sous l'Ancien Testament, allait voir un prêtre pour faire constater que sa maladie avait disparu, le prêtre ensuite devait imposer à ce lépreux guéri un sacrifice tout à fait spécial. Et il nous sera intéressant de nous attarder un petit peu sur la description de ce sacrifice et sur l'analyse que nous allons en faire. Le livre du Lévitique nous le décrit ainsi. « Celui qui doit être purifié offrira deux passereaux, du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Il immolera l'un des passereaux dans un vase de terre sur de l'eau vive. Il trempera l'autre passereau, qui est vivant, avec le bois de cèdre, l'écarlate et l'hysope, dans le sang du premier passereau qui aura été immolé. Le prêtre fera ensuite 7 fois les aspersions avec ce sang sur celui qu'il purifie, et il laissera s'envoler le passereau vivant. » Il y a assurément dans ce sacrifice quelques grands mystères, car à s'en tenir au sens littéral, à ce que signifient les mots, tout ce cérémonial a de quoi nous étonner. Cependant, si nous fixons nos regards sur celui qui a ordonné cette loi et qui l'a promulguée par la bouche du prophète qui l'a inspiré, alors assurément, il y a quelques grandes leçons à en tirer. Le prophète Moïse, lorsqu'il venait de naître, fut recueilli par la fille du Pharaon dans une corbeille de joncs qui avait été posée sur le Nil. Cette corbeille, quoique vile et souillée de fange, ne contenait pas moins qu'un très bel enfant, symbole de la loi que Moïse allait lui-même promulguer plus tard. Car de la même manière que cette loi semble offrir, dans certains de ses détails, quelque apparence de superstition, cependant elle renferme en elle-même de grands mystères. Prenons quelques exemples. Beaucoup d'observances pratiques de la loi mosaïque avaient pour but d'éduquer le peuple juif. Ainsi, lorsque la loi interdit de manger la viande des porcs, c'est pour inculquer à ces esprits grossiers de ne pas se vautrer dans la fange des plaisirs sensibles et charnels. Lorsqu'elle interdit de manger la chair du vautour ou de l'aigle qui vivent de rapines, c'est pour nous avertir de ne pas vivre de manière sanguinaire, de ne pas développer en nous le vice de l'avarice et que les riches ne vivent pas aux dépens des pauvres. Lorsque la loi dit « Tu ne liras pas la bouche du bœuf qui foule le grain », c'est pour nous instruire que nous n'avons pas à priver l'employé du salaire qui lui est dû. L'interprétation du sacrifice du lépreux va nous donner tout un programme pour nous éviter de contracter la lèpre du péché, ou tout du moins pour nous tenir à distance et ne pas être trop contaminés. En effet, si nous reprenons ce sacrifice, rappelez-vous qu'il y a eu deux passereaux qui ont été présentés aux prêtres. L'un d'eux a été mis à mort et l'autre a été relâché. Ces deux passereaux symbolisent les deux parties qui composent tout homme, son corps et son âme. Le passereau qu'il faut immoler, c'est notre chair. Le passereau qu'il faut mettre en liberté, c'est notre esprit. Première leçon à tirer, pour ne pas retomber, pour tout du moins nous tenir éloignés du péché, il nous faut immoler notre chair, c'est-à-dire la mortifier. Pourquoi cela ? Car sans mortification, on ne peut avoir une vraie vie chrétienne. Sans mortification, on ne peut pas régler sa vie pour plaire au bon Dieu. Notre Seigneur nous en fait un devoir, d'ailleurs. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Notez que le but est donné. Si quelqu'un veut me suivre. Saint Paul, pareillement dans l'Épître aux Romains. Je vous en conjure, mes frères, par la miséricorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme une hostie sainte, vivante et agréable à ses yeux, pour lui rendre un culte raisonnable. Et là encore, le but nous est donné. Pour rendre à Dieu un culte raisonnable. Et sans cette mortification de notre chair, notre volonté s'amollit. Nous nous retrouvons sans force pour faire le bien. Et lorsque de plus grandes tentations viennent, le démon a beau jeu de facilement remporter la partie, faute d'avoir su trouver en face de lui une âme aguerrie, entraînée au combat. Cependant, notons tout de suite que si c'est une nécessité absolue de mortifier notre corps, il y a de justes limites à poser. Le livre du Lévitique, un peu plus loin, dit que pour le sacrifice du premier passereau, il faut se contenter de lui pencher la tête en arrière, coller le cou sur le corps et de juste pratiquer une incision de manière à ce que le sang coule. Il n'est nullement question de trancher la tête de l'animal, de la séparer du tronc. Cette image nous montre que dans les mortifications de notre corps, il ne faut pas aller trop loin. Il y a de la prudence à garder, et ce serait une grave erreur d'exténuer notre corps au point de le rendre impropre au devoir d'État que nous devons remplir. Cependant, à bien réfléchir, vers quel excès sommes-nous le plus tentés ? Vers trop de mortification ? Ou bien au contraire, nous avons du mal à trouver à la fin de la journée une petite pénitence que nous aurions faite. Et au contraire, nous sommes plutôt laissés aller à tous les plaisirs sensibles, pas forcément graves, mais du moins nous avons vécu une vie plutôt sensuelle dans la journée. Aussi, afin d'éviter tout excès dans la mortification sensible, il est très important pour nous d'avoir des petites mortifications, si possible inconnues des hommes, et que nous offrons uniquement pour l'amour de Dieu. Et c'est d'ailleurs un signe de bonne santé spirituelle. Donnons quelques exemples. Dire une dizaine de chapelets les bras en croix tout seul dans sa chambre. Se lever, se coucher à heure fixe. Lorsqu'on se promène dans la rue, mortifier son regard. Ne pas regarder même des choses légitimes. Et offrir cela au bon Dieu. Et puis à table, normalement, nous devrions toujours quitter le repas en ayant offert quelque chose au bon Dieu. Pas forcément sur la quantité, mais au moins sur la qualité. Entre deux plats qui se proposent, il est très facile de prendre celui qui flatte le moins le goût. On n'est pas obligé non plus de prendre de la confiture tous les jours. Saint Vincent Ferrier disait que la table est comme un autel. Nous ne devrions jamais la quitter sans avoir offert au moins un sacrifice. Mais vous comprenez que dans tout cela, c'est une question d'amour de Dieu. Que sommes-nous prêts à faire pour l'amour de notre Seigneur ? Quelles attaches sommes-nous prêts à couper pour mieux servir le bon Dieu ? Nous venons de dire que cette mortification de notre corps est essentielle. Elle est vraiment nécessaire. Cependant, ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est la mortification des mauvaises tendances de notre esprit, de nos mauvaises inclinations, de nos mauvais penchants. Saint Paul encore nous avertit : faites mourir les membres de l'homme terrestre qui est en vous. La fornication, l'impureté, les abominations, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Et le temps que Dieu nous donne, chacune de nos journées, nous est donné pour combattre une mauvaise tendance de notre âme. Nous avons des mauvaises tendances, nous sommes tous blessés par le péché originel et les péchés actuels que nous avons commis depuis que nous avons l'âge de raison ont renforcé ces mauvaises tendances. Et nous avons un devoir de les combattre. Aussi, dès le lever, dès notre prière du matin, il est très important pour nous de demander au bon Dieu la grâce de mener ce combat spirituel, de combattre au moins dans la journée un défaut que nous avons, de demander la grâce de tenir nos résolutions. Et pour cela, faudrait-il que nous en ayons. Demander la grâce aussi de ne pas nous soumettre aux occasions de péché, car comme dit l'Écriture, celui qui aime le péril périra. Une remarque avant d'aller plus loin, si cette mortification de nos mauvais penchants est la plus importante, il faut savoir que l'homme qui dirait qu'il mène le combat spirituel, qu'il combat ses mauvais penchants, mais qu'il ne ferait aucune mortification extérieure, aucune pénitence pour son corps, eh bien cet homme serait dans une illusion totale. Il est impossible que Dieu nous donne la grâce pour combattre nos défauts, le plus important, si nous n'offrons pas en même temps des pénitences corporelles. On n'a pas l'un sans l'autre. Quel motif, quelle considération nous aideront à mener cette vie de pénitence, de renoncement à nos mauvaises inclinations? Pour cela, reprenons le sacrifice du lépreux. Premier point sur lequel il nous faut nous arrêter, c'est la manière dont était immolé le premier passereau. Il a été dit que ce passereau devait être immolé sur un vase de terre sur lequel coulait une eau vive. Le vase de terre signifie la fragilité de notre corps et les eaux vives, le cours rapide de notre vie. Rien n'est plus fragile qu'un vase fait de boue et de terre. Et l'eau d'un fleuve, d'une fontaine, qui coule sans s'arrêter, est bien le symbole de notre vie, qui inexorablement, continuellement, va vers sa fin. Autant vous avez damné, dit saint Augustin, autant vous en avez perdu. Et de fait, la mort n'est jamais éloignée. Qu'est-ce que sont les quelques années qui nous séparent de notre fin? La mort nous suit de près. Et il ne faut pas croire que ce n'est qu'au jour de notre mort que la mort fait ses premières approches. C'est tous les jours. Tous les jours, nous nous rapprochons de la fin. Au dire des auteurs spirituels, la considération de la mort est un des moyens les plus puissants pour nous détacher des vanités et des futilités de cette terre auxquelles nous sommes attachés. Il nous faudra bien tout quitter un jour. Et il vaut mieux faire aujourd'hui, pour l'amour de Dieu, librement, ses renoncements, mener cette vie de pénitence à laquelle notre Seigneur nous appelle, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce, plutôt que demain. Demain, il sera trop tard. C'est aujourd'hui que notre Seigneur nous appelle, si quelqu'un veut me suivre. Aussi, profitons du temps qui nous est donné ici-bas pour embrasser cette vie de pénitence, pour couper avec les mauvaises occasions de péché, pour pardonner, nous réconcilier avec un ennemi. Mieux vaut le faire maintenant, ce sera méritoire, cela nous procurera une augmentation de grâce dans notre âme, nous rapprochera du cœur de notre Seigneur, plutôt que dans les flammes du purgatoire. Ou pire, pour des haines tenaces, graves, desquelles on ne s'est jamais corrigé, eh bien mourir la haine attachée au cœur et descendre comme cela au fin fond de l'enfer. Oui, la mort est vraiment un puissant aiguillon, et il n'y a pas de plus grand prédicateur. Saint-Pierre d'Alcantara, religieux franciscain, qui a mené une très grande vie de pénitence, des pénitences extraordinaires, Dieu lui en a donné la grâce, est apparu peu de temps après sa mort à Sainte-Thérèse d'Avila. Il était tout rayonnant de gloire. Et il a dit à Sainte-Thérèse, « Ô bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle gloire !» Deuxième point qui s'offre à nos regards, le deuxième passereau qu'il fallait laisser s'envoler. Le bon Dieu nous avertit par là qu'à l'amour de la mortification, il nous faut joindre l'amour de la prière. Et l'on peut même dire que c'est là le plus important. La mortification nous aide à mieux prier, nous aide à mieux nous unir à Dieu. La mortification n'a d'autre but que de nous joindre, nous unir au bon Dieu. Pourquoi fallait-il alors que ce passereau, que l'on devait laisser s'envoler, fût teint du sang du premier? C'est parce que dans la prière, une erreur serait de rechercher uniquement les consolations sensibles. Que Dieu nous en donne, loin de nous de les rejeter. C'est un cadeau de Dieu. Il ne faut pas le mépriser. Mais l'erreur est de s'attacher aux consolations, de les rechercher pour elles-mêmes, de ne pas remonter à la main qui nous les a données. Nous tomberions alors dans la gourmandise spirituelle. Et ce que nous rechercherions dans la prière, ce ne serait plus le bon Dieu, ce ne serait plus notre Seigneur Jésus-Christ, ce ne serait plus la croix de notre Seigneur, ce serait nous-mêmes. Nous rechercherions la jouissance et non l'amour de la croix. D'ailleurs, le grand objet de notre prière, auquel il faut souvent revenir, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la méditation, la contemplation des souffrances de notre Seigneur, que nos cœurs s'enflamment d'amour pour Dieu. Car quoi ? Dieu lui-même, en personne, viendrait à ma place, en mon nom, souffrir pour moi, offrir sa vie, me délivrerait de l'enfer par mille souffrances, par sa mort. Et moi, misérable créature, je resterai comme indifférent, étranger, comme insensible. Je ne toucherai que du bout du doigt, du plus loin possible que je peux, et souvent contraint et forcé à cette vie de pénitence à laquelle il m'appelle, à cette vie de renoncement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Non, il n'est pas possible que nous restions dans une vie frivole, comme si notre Seigneur n'était pas mort pour l'amour de nous, comme si nous devions vivre toujours ici-bas, comme si nous n'allions pas mourir un jour et rendre compte de ce que nous avons fait ici-bas. C'est à chacun de nous que notre Seigneur redit ce qu'il disait à saint Angèle de Foligno : « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Pour conclure, nous donnons la parole au cardinal Pie. Lors du panégyrique de Saint-Martin, le 14 novembre 1858, notez bien, c'était il y a plus de 150 ans. Voici ce qu'il disait déjà à ses contemporains. Hélas, si nous venons à comparer le christianisme de notre temps avec celui de Martin, n'y a-t-il pas lieu de se demander si c'est le même évangile qui nous a été enseigné, si c'est le même baptême que nous avons reçu, si ce sont les mêmes engagements que nous avons pris. Un christianisme qui capitule journellement avec Satan, qui pactise avec les pompes du monde, qui amalgame les ténèbres avec la lumière, Bélial avec Jésus-Christ, un christianisme qui doute de lui-même, qui n'a ni le courage ni la dignité de ses convictions, un christianisme, hélas, trop souvent sans esprit de pénitence, sans pratique de mortification, et qui s'imagine pouvoir subsister dans une vie commode et sensuelle. Un christianisme qui laisse au second rang, ou plutôt au dernier rang, dans nos affections, le sentiment qui doit être le premier et le plus fort de tous. Maximum et primum. Un christianisme sans recueillement intérieur, sans union à Dieu, sans contemplation, sans oraison, disons le mot, un christianisme sans amour, ou du moins sans cet amour dominant de Dieu que l'ancienne comme la nouvelle loi place en tête de tout le devoir religieux. Enfin, un christianisme trop souvent personnel, égoïste, étranger à la noble passion du dévouement au bien spirituel et au salut éternel du prochain. Et le cardinal ajoutait : suis-je dans l'exagération et dans le faux quand je fais cette peinture ? Mes frères, c'est la même question qui nous est posée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.